Merci d'écouter RFI, 23h à Paris, 22h en temps universel.
Pascal Humeau.
À la une de cette édition, la Côte d'Ivoire, 9 soldats français et un civil américain ont été tués aujourd'hui dans les bombardements de l'armée ivoirienne sur Bouaké, le fief des ex-rebelles. À Abidjan, des accrochages ont été signalés, de nombreuses scènes de pillage chez la communauté française. Un lycée français a d'ailleurs été incendié par des jeunes patriotes. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce soir en urgence. Paris envoie des renforts militaires et met en garde Laurent Gbagbo, l'appelle à assumer ses responsabilités. Pour ramener le calme dans le pays. Un accident de train ce soir près de Reading dans l'ouest de Londres. Selon un premier bilan encore imprécis, plusieurs personnes sont mortes, quelques 150 autres sont blessées. L'état de santé de Yasser Arafat, stable mais critique. Nabil Abou Rodeina, son principal conseiller, est au chevet du dirigeant palestinien. À Gaza aujourd'hui, réunion des groupes armés autour du premier ministre. Ahmed Korey les appelle à éviter la violence. En Irak, Fallou cible d'un assaut imminent, semble-t-il, de l'armée américaine. La population est appelée par tract à quitter la ville sunnite. Et puis à Samara, 4 voitures piégées ont explosé ce matin. 33 tués, près de 50 blessés. Le russe Marat Safin face au tchèque Radek Stepanek. L'affiche demain de la finale du tournoi de tennis de Paris-Bercy. Les deux hommes se sont qualifiés face respectivement à Leighton Hewitt et Guillermo Cañas. Ce sont donc 9 soldats français et un ressortissant américain qui sont morts aujourd'hui dans les bombardements de l'armée ivoirienne sur les positions sous contrôle des ex-rebelles. À Bouaké précisément, 22 éléments de licorne par ailleurs ont été blessés. Les événements se sont ensuite enchaînés. En riposte, l'armée française a détruit à Yamoussoukro 2 Sukhoi 25 des forces ivoiriennes, 2 des 3 Sukhoi dont elle dispose au total. Et puis on apprend à l'instant que 3 hélicoptères de combat par ailleurs, toujours à Yamoussoukro, ont été détruits par l'armée française. C'est le porte-parole de l'opération Licorne qui l'annonce ce soir. Au-delà de la destruction des moyens militaires aériens de la Côte d'Ivoire, la France s'est tournée vers les Nations Unies. Le Conseil de sécurité vient de se réunir en urgence. Les ambassadeurs devraient adopter une déclaration très ferme, déclaration qui demanderait l'arrêt immédiat de toutes les opérations militaires et condamnerait celles déjà menées. À Abidjan, des accrochages ont en effet éclaté entre soldats français et ivoiriens sur l'aéroport international. Le lycée français Mermoz, toujours à Abidjan, a été incendié et selon des témoignages sur place, des Européens ont été pris à partie par de jeunes patriotes, des partisans du président Gbagbo. La France craint maintenant des actions anti-françaises. La situation est tendue à Abidjan. Écoutez, cet habitant de Marcory s'est situé sur la route de l'aéroport, tout près du 43e BIM. Sarah Tisser l'a joint il y a 3 heures maintenant.
Là où je me trouve, on a entendu des bruits de tonation et c'était en provenance du 43e BIMA. Je sais qu'il y a beaucoup de tensions en ville actuellement. C'est de l'électricité dans l'air et puis c'est surtout des jeunes qui se rassemblent par petits groupes qui essayent d'haranguer un peu les alentours. Là. Tout le monde est actuellement à la maison. On a fait des courses pour quelques jours déjà depuis le jeudi dernier et aujourd'hui on était à la maison. Et là tout de suite je viens encore d'entendre une détonation en provenance du 43e BIMA là. C'est vraiment difficile parce qu'on se pose des questions, il y avait des accords, on se dit que maintenant ils sont piétinés. Donc que va être le lendemain, qu'est-ce qu'on va faire demain, c'est la grande question. Et là je crois que les détonations se font entendre encore plus, je viens d'en entendre une autre.
Voilà ce témoignage d'un habitant de Marcory, non loin du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de l'armée française à Abidjan. On apprend d'ailleurs qu'un avion militaire français, un Transal, a été endommagé sur l'aéroport lors de heurts entre soldats de l'opération Licorne et militants pro-Gbagbo. La France a donc décidé ce soir d'envoyer des renforts militaires en Côte d'Ivoire, 2 compagnies pour assurer la sécurité de ses ressortissants. 2 compagnies, c'est-à-dire à peu près 300 hommes. Javier Solana, le chef de la diplomatie européenne, appelle Laurent Gbagbo à stopper toute intervention militaire. Le chef de la diplomatie française appelle, lui, le président à assumer ses responsabilités pour ramener le calme. Et la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, est encore plus claire. Elle affirme que Laurent Gbagbo sera tenu pour seul responsable du maintien de l'ordre à Abidjan. Au vu de cette situation, la France a déployé aujourd'hui 3 Mirage F1 des avions de chasse à Libreville au Gabon par mesure de précaution, indique-t-on de sources militaires françaises. Ajoutons quand même que le porte-parole de la présidence ivoirienne, Désiré Tagro, a lancé ce soir à la télévision un appel au calme aux Ivoiriens, cela alors que des violences donc anti-françaises ont éclaté à Abidjan après la destruction d'avions de l'armée ivoirienne par les forces françaises. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU, je vous le disais, s'est réuni ce soir dans l'intention d'adopter une déclaration. Elle devrait condamner l'attaque commise contre les forces françaises à Bouaké et soutenir l'action menée par ces forces et celle de l'ONU en Côte d'Ivoire. Encore une dernière réaction, celle du président de la Commission de l'Union africaine, Alpha Omar Konaré, exprime son inquiétude. Il rappelle que le règlement de la situation réside dans un dialogue politique. L'état de santé de Yasser Arafat. Les bulletins de santé de la médecine militaire sont toujours aussi laconiques. Les déclarations à ce sujet limitées au strict minimum. Le porte-parole du service de santé des armées annonce aujourd'hui qu'il n'y a pas d'évolution, ni dans un sens ni dans l'autre. Nabil Abou Roudaina déclare, lui, que le chef, que l'état du chef de l'autorité palestinienne est toujours critique, mais que sa condition n'a pas atteint un stade irréversible. Le principal conseiller de Yasser Arafat est à son chevet à l'hôpital militaire. Terre Percy de Clamart, c'est en région parisienne. Quel que soit l'état de santé d'Yasser Arafat, l'intérim au moins s'organise dans les territoires. Le Premier ministre, accompagné des services de sécurité, a rencontré aujourd'hui à Gaza les principaux groupes armés palestiniens qui, eux, s'étaient déjà réunis hier. Ahmed Korey leur a rappelé que prendre les armes n'est pas la solution. Tout problème, dit-il, doit trouver solution par le biais du dialogue national. Journée particulièrement meurtrière ce samedi en Irak. L'armée américaine continue de préparer le terrain à un assaut sur Fallujah et plusieurs voitures piégées ont explosé à Samara. 33 morts et une cinquantaine de blessés. Daniel Desesquelles.
La guérilla sunnite a mené une série d'attaques meurtrières à Samara, théoriquement sous le contrôle des forces américano-irakiennes. 4 voitures piégées ont explosé dans cette ville située à une centaine de kilomètres de Bagdad. On dénombre une trentaine de morts et autant de blessés. La plupart sont des policiers ou des gardes nationaux. Le chef local de la police a notamment été tué dans un attentat devant la sous-préfecture. La guérilla jette ainsi le doute sur la réalité du contrôle de l'armée américaine dans cette ville. À Fallujah, les forces américaines se préparent toujours à prendre d'assaut la ville contrôlée par la guérilla sunnite. Les frappes aériennes et les tirs d'artillerie américains ont été, d'après les observateurs, les plus violents depuis des mois. Un hôpital flambant neuf a été détruit par 2 missiles. À Bagdad, sur la route de l'aéroport, un Irakien a été tué et 3 soldats américains blessés dans un autre attentat à la voiture piégée. Enfin, le corps de 3 entrepreneurs irakiens qui travaillaient pour le compte de l'armée américaine ont été découverts dans une petite ville au nord de la capitale irakienne.
Les 3 employés de l'ONU retenus en otage depuis le 28 octobre dernier en Afghanistan, leur sort sera négocié à partir de ce dimanche midi dans la province de Kandahar. Une délégation du gouvernement est arrivée cet après-midi au contact des ravisseurs, l'armée des musulmans. Kaboul relance ainsi l'espoir d'une libération de ces 3 expatriés. Alain Renon.
C'est la première fois que la tension baisse d'un cran et que s'esquisse la possibilité d'une solution négociée. Une délégation officielle afghane est en effet arrivée ce samedi soir dans la région de Kandahar, dans le sud du pays, prête à rencontrer les ravisseurs, visiblement satisfaits de leur côté de voir s'établir enfin un contact direct avec les autorités de Kaboul. L'armée des musulmans, considérée comme une faction dissidente des talibans, se montre d'ailleurs bien plus souple que ces derniers jours. Des médicaments ont ainsi pu être acheminés jusqu'aux otages, deux d'entre étant apparemment malades. Et puis surtout, les ravisseurs ont révisé leurs exigences à la baisse. Ils ne réclament plus désormais que la libération de militants islamistes en échange des 3 employés de l'ONU, après avoir demandé l'impossible, à savoir le retrait d'Afghanistan de toutes les troupes étrangères et la suspension des opérations de l'ONU. À Kaboul, le gouvernement s'affiche toujours optimiste sur le sort des otages, mais silencieux quant à la marge de manœuvre dont disposent ces négociateurs.
Je vous l'annonçais en titre, plusieurs personnes ont été tuées. C'est encore imprécis. De nombreux autres ont été blessés, près de 150, et bloqués à bord d'un train qui a déraillé tout à l'heure à l'ouest de Londres, en Angleterre, après avoir percuté une voiture à un passage à niveau. C'est ce que rapporte la police des transports. Pas plus de précision. Et puis les demi-finales du tournoi de tennis de Paris-Bercy se sont jouées aujourd'hui. On connaît donc l'affiche de la finale. Elle opposera le russe Marat Safin à Radek Stepanek. Voilà pour cette finale qui aura lieu demain à Bercy.
Bonjour, président Gbagbo.
Bonjour.
Traumatisé par les pillages, les tabassages et même les viols, près de 3000 ressortissants français ont d'ores et déjà quitté la Côte d'Ivoire. Alors d'abord, président Gbagbo, dites-nous, pourquoi un tel climat de haine et de violence anti-française ? Comment vos partisans ont-ils pu en arriver là, alors qu'il y a quelques années encore, la Côte d'Ivoire était citée comme un des modèles de l'Afrique ?
Je crois que la manière dont vous utilisez la question va nous appeler à remettre les choses dans leur contexte. Pendant une guerre que nous menons contre les rebelles, et les rebelles qui nous ont attaqués, ils sont armés, ils refusent de désarmer. Personne ne vient nous aider à les désarmer. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous décidons de les attaquer. Au cours de ces attaques, des Français sont tués. On dit qu'ils ont été visés. D'autres disent que c'est une erreur de tir. J'ai ordonné une enquête qui va montrer de quoi il s'agit. Mais aussitôt après l'annonce de la mort des Français, l'ordre est donné aux soldats français de détruire tous les aéronefs militaires de Côte d'Ivoire au sol. C'est ça. Et ça qui a soulevé les gens et qui les a mis dans la rue. Si on ne fait pas cet enchaînement, on ne peut pas comprendre. Et c'est ça qui a mis les gens dans la rue. Alors, évidemment, une foule dans la rue, on ne peut pas contrôler tout le monde. Surtout que dans le même temps, et je vous donne l'information, nous sommes très préoccupés parce que 4000 prisonniers se sont évadés de la prison. Les a-t-on aidés à s'évader ou bien se sont-ils évadés eux-mêmes? On n'a sait rien encore. Donc tout cela, ça amène des pillages, ça amène les excès de toutes sortes. Voilà la situation.
Mais vous en voulez à Jacques Chirac qu'il ait immédiatement ordonné la destruction de tous vos moyens aériens militaires? Vous êtes senti agressé?
Je ne comprends pas. Après avoir découvert que des Français ont été tués, on n'a pas pris le temps de mener une enquête pour savoir où sont les responsabilités et prendre les décisions qu'il faut. Moi, en tout cas, j'ai lancé une enquête et j'entends bien que cette enquête aille jusqu'à son terme pour qu'on prenne des décisions. En même temps, on décide de détruire tous nos aéronefs, je ne comprends pas. C'est une décision incompréhensible, précipitée et violente, que je n'arrive pas encore à comprendre.
Mais en même temps, président Gbagbo, Jacques Chirac ne vous a pas pris en traite, puisque 3 jours avant ce bombardement, il vous a, dit-on, à Paris, téléphoné pour vous mettre en garde contre tout dérapage vis-à-vis des intérêts français.
Mais écoutez, ça fait 4 ans que je suis chef d'État. Est-ce qu'une seule fois j'ai porté atteinte à des intérêts français? Est-ce qu'une seule fois? Et ça fait 2 ans que la guerre a commencé. Ça fait 2 ans que j'appelle au secours. Si on avait désarmé les rebelles, selon les accords de Marcoussi, parce que selon ces accords-là, les rebelles, le désarmement devait commencer immédiatement après la formation du gouvernement de réconciliation nationale. Nous avons formé ce gouvernement en mars 2003, les rebelles ne sont pas désarmés et personne ne s'en émeut.
Mais Laurent Gbagbo, est-ce que vous admettez que Jacques Chirac, depuis 2 ans, n'a quand même pas ménagé sa peine pour sortir de votre pays de la guerre civile, aussi bien politiquement avec les accords de Marcoussi que militairement avec l'envoi de 4500 nos soldats? Oui ou non?
Moi, j'applique les accords de Marcoussi parce que c'est le seul médicament, le seul remède qu'on m'a présenté. Mais j'ai toujours estimé que c'était un mauvais remède. C'est un remède. J'ai dit que c'était comme l'huile de ricin qu'on me faisait prendre quand j'étais petit. Je l'ai trouvé mauvais, mais comme c'était la seule chose pour me guérir, je prenais cette huile-là. Vous voyez, il faut qu'on soit dans une autre disposition d'esprit par rapport aux États africains.
En tout cas, vous ne voulez pas que les 4500 militaires français quittent la Côte d'Ivoire?
Je ne l'ai pas demandé.
Donc vous ne voulez pas rester seul face aux rebelles, quitte à provoquer une guerre civile?
Je n'ai rien demandé de la sorte.
Mais qui, à votre connaissance, a donné l'ordre aux pilotes du Sukhoi ivoirien de lâcher, il y a une semaine, des bombes sur le camp militaire français de Bouaké? Qui, à votre avis, aujourd'hui?
Mais c'est ça que l'enquête doit montrer. Si je le savais, je n'aurais pas ordonné une enquête.
Et qu'aujourd'hui, président Gbagbo, de nombreux ressortissants français et européens aient d'ores et déjà massivement fui votre pays car ils ne s'y sentent plus en sécurité physique, une sécurité que vous, le président de la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez plus leur garantir. Ça, Laurent Gbagbo, ça ne vous interpelle pas quand même?
D'abord, je m'inscris en faux contre votre adverbe « massivement ». Parce que ici, vous avez dit que 3000 sont partis. Mais ils ne sont pas 3000 ici. Ils ne sont pas 3000. Ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, ils ne sont pas partis massivement. D'autre part, ceux qui sont partis vont revenir. Mais je vous le dis, quand il y a des troubles dans un pays, on ne peut, c'est facile de dire « Ah, le chef d'État devait maintenir l'ordre ». En mai 68, moi j'étais étudiant à Paris, hein, en mai 68. Quand il y a eu des troubles dans toute la France, je ne savais pas si on pouvait accuser le chef d'État de n'avoir pas pu maintenir l'ordre. Donc il y a des moments dans l'histoire des pays comme ça où il y a des moments de troubles. C'est trop facile toujours de dire, quand il s'agit du tiers-monde, oui, lui là il aurait pu, il aurait dû, il aurait pu. Il y avait cas. Il n'y avait pas cas dans le monde. L'histoire de l'humanité n'est pas faite de yaka ou de yaveka. Elle est faite des réalités que nous observons et que nous essayons de résoudre.
Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous répondez au fait que à Paris, on dise que l'attaque sur les militaires français ait été présentée à Paris comme totalement voulue et délibérée, et cela même si le chef d'état-major des armées, le général Bintéja, vous a disculpé d'en avoir personnellement donné l'ordre. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça?
Non, mais moi, la déclaration du général Bintéja est une déclaration logique. Ce n'est pas une déclaration qui est la conséquence d'une enquête. Il a dit que logiquement, je ne peux pas avoir donné cet ordre. Parce que cet ordre aurait été insensé et aurait été contre tous les intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est la logique. Et je crois qu'il faut que nous soyons tous dans des raisonnements logiques. Maintenant, pour savoir les faits, pour savoir ce qui s'est passé réellement, il faut permettre à une enquête réelle, minutieuse, sérieuse de se faire. Après quoi, on verra s'il y a eu des ordres qui ont été donnés, s'il y a eu des contre-ordres. Si nous raisonnons tous par la logique, je crois qu'il y aura moins de tensions entre Paris et Abidjan.
Et une autre curiosité, Laurent Gbagbo, est-ce qu'il est exact que vous comptiez acheter de nouveaux avions de combat, comme l'affirmait vendredi un journal d'Abidjan qui vous est proche, en titrant à la une « De nouveaux bombardiers arrivent ».
Mais vous croyez que je vais laisser mon pays sans défense aérienne? Est-ce que vous le croyez sérieusement?
Donc vous allez les acheter.
Mais est-ce que vous croyez qu'il est sérieux de laisser mon pays sans défense? Ce n'est tout de même pas sérieux de penser ça.
Et si l'armée française vous les détruit de nouveau, qu'est-ce que vous ferez?
Si l'armée française les détruit, on achètera encore une troisième fois.
Mais vous avez quand même intérêt à faire vite pour réacheter ces avions. Car si j'ai bien compris, demain, lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunit devrait voter une résolution sanctions à la clé prévoyant un embargo sur les armes à compter du 10 décembre, c'est-à-dire dans moins d'un mois. Alors qu'est-ce que vous en dites?
Mais je n'en dis rien. Je ne suis pas membre permanent du Conseil de sécurité. Je ne suis même pas membre du Conseil de sécurité, donc je regarde venir.
Merci, Président Gbagbo.
Allez, merci.
Voilà, c'était donc Laurent Gbagbo, le président ivoirien invité ce matin de Roland Miéhil. Je vous rappelle que cet entretien était enregistré hier soir à 21h, donc une heure avant l'annonce de changement du chef d'état-major ivoirien.